Vous écoutez RTL.
15h, 16h.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est fait pour s'entendre, vous accompagne pendant ces fêtes de fin d'année. Vous avez manqué une émission, vous avez des suggestions de thèmes ou vous souhaitez nous apporter votre témoignage. Eh bien, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Ils sont ouverts 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
Ils attendent, leur excitation monte, ils trépignent d'impatience et c'est enfin la course effrénée jusqu'au sapin. Les mille et une lumières des guirlandes se reflètent dans leurs yeux ébahis. Alors on vous le demande, quel meilleur jour que ce réveillon du 24 décembre pour parler de l'évermaillement. Mais si c'est aux enfants que l'on pense instinctivement, qu'en est-il du nôtre, nous, celui des grands? Sait-on encore s'émerveiller à l'âge adulte? Comment retrouver cette émotion si pure et si puissante qui nous connecte au monde et qui nous fait nous sentir si vivants? On en parle aujourd'hui avec vous et avec nos invités. Mathieu Ricard, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir en ce 24 décembre.
Mais
merci d'être avec nous. Vous êtes moine bouddhiste, vous êtes photographe, vous êtes humanitaire et puis vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle donc Émerveillement, vous voyez si j'y arrive, justement que l'on retrouve aux éditions de La Martinière. Quel était l'objet de ce livre ?
Alors, si vous voulez, j'ai beaucoup vécu dans la nature sauvage. D'abord, enfin, un demi-siècle dans l'Himalaya, principalement dans les montagnes. Ouais. Et puis, j'ai eu l'occasion, de divers voyages, de me retrouver aussi dans les fins fonds des hauts plateaux de l'Islande, faire le tour, marcher 12 heures autour du Fitzroy en Patagonie, justement, au mois de décembre aussi, de voir les aurores boréales dans le nord du Canada. Ouais. Alors ça, c'est le meilleur sapin de Noël que vous puissiez imaginer, le ciel qui s'illumine. Et donc, justement, un jour, un matin, très tôt, sur ces hauts plateaux de l'Islande, j'étais avec un ami, je photographiais la beauté de l'Islande, et c'était tout un immense désert de lave, couvert de neige, personne. Et je me suis dit, mais pourquoi suis-je là? Et le mot émerveillement est venu à mon esprit. Ouais. Je me dis, voilà un beau thème pour partager toutes ces images et pour écrire un texte fort sur notre engagement à l'égard de l'environnement.
Ouais. Parce c'est un plaidoyer pour la nature.
Amène le respect, le désir de prendre soin, l'action pour protéger ce qui vous émerveille.
Et on le voit d'ailleurs à travers les messages que l'on reçoit et dont je vais me faire l'écho pendant toute cette émission, c'est que lorsque l'on s'évermeille, c'est sur la beauté du vivant. Hein, et c'est bien souvent la nature ou c'est bien souvent son prochain. Ce sont nos enfants. Enfin, on va y revenir de toute façon. À vos côtés, Pascal Cheng. Bonjour Pascal.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste spécialisé en psychologie au Figaro et puis auteur de L'effet haïku aux éditions Le Duc et de Un haïku chaque jour aux éditions du Seuil. Avec tout ça, normalement, je pense qu'avec vos ouvrages, on devrait très bien finir cette année et très bien aborder l'année qui vient. Pascal Cheng, c'est quoi l'évermaillement?
Eh bien, c'est être ouvert déjà à quelque chose qui est fugitif, qui vous est donné et qu'il ne faut pas rater. Et je crois que la conscience de l'émerveillement, c'est que les choses sont fragiles. Si on ne se rappelle pas que les choses vont passer, on ne se rend pas compte à quel point elles sont belles. Et on le voit en ce moment avec la planète. Tout nous est tellement acquis, n'est-ce pas, qu'on ne la regardait même plus. Sauf que si ça s'arrête un jour, eh bien on va recommencer à regarder les flots, les arbres, la mousse, les champignons. Et puis ça change la vie. L'émerveillement, c'est une puissance incroyable.
Et puis ça me fait penser à l'amour, en fait.
L'amour du vivant, vous l'avez dit.
Oui, l'amour du vivant, mais même en fait, c'est cette idée que vous dites, c'est quelque chose de fugitif dont il faut prendre soin, ça se cultive comme on cultive l'amour en fait. C'est quand l'amour est parti qu'on se dit, mais en fait, on était quand même vachement bien quoi.
Oui, et je crois que, plus on s'émerveille, plus on va s'émerveiller. C'est-à-dire si on ouvre ces fenêtres en soi, qui ne sont pas données tout de suite, je pense qu'on les a dans l'enfance et puis il faut les retrouver, eh bien si on le cultive quotidiennement, ça grandit.
On se met en pause pour s'évermeiller, pensez-vous,
Cette
Mathieu
pause
Ricard
survient naturellement. Voilà. Quand vous vous trouvez soudainement au croisé du chemin, en haut d'une montagne, vous passez un col, vous faites un tournant et vous voyez ce paysage grandiose, sublime. Ou alors, vous tombez sur cette mousse avec des fourmis. Et ça peut être dans les dédales d'une écorce. Et là, il y a un moment effectivement où votre espace intérieur s'agrandit, les sentiments du moi s'amenuisent, Vous parliez d'amour et de bienveillance. Les études psychologiques sur l'émerveillement ont montré que du fait qu'on a un sentiment d'appartenance, d'interdépendance avec tous les autres êtres vivants, eh bien, ceux qui s'émerveillent ont des comportements plus altruistes lorsqu'ils sont sous l'effet de l'émerveillement. Effectivement, on ne peut pas le cultiver dans le sens de l'obliger, je veux être émerveillé, mais on peut cultiver disons, le terrain intérieur qui fait qu'on s'émerveille plus facilement devant le regard d'un enfant. Personnellement, pour moi, c'est un émerveillement permanent que de contempler le visage de mes maîtres spirituels. Ça, c'est l'émerveillement sur la liberté intérieure, sur la sagesse, sur la compassion. Mais là, ce livre-là, il est plus dédié à l'émerveillement devant la part sauvage du monde.
Oui.
Et donc, si on la respecte, il faut la préserver.
On va se retrouver dans un instant. Si vous le voulez bien, nous allons accueillir Jean sur cette antenne. Il est déjà en ligne et je pense qu'il a plein de choses à partager avec nous. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre.
Aujourd'hui, avec vous, avec nos invités que sont Mathieu Ricard et Pascal Schenk, nous parlons de l'émerveillement. Georges nous écrit « Les surprises de la vie, pas forcément agréables, me font prendre conscience de la chance d'être vivant. C'est aussi ça, l'émerveillement. » Est-ce qu'il faut souffrir, Mathieu Ricard, peut-être, pour ouvrir cet espace intérieur dont vous nous parliez ?
La souffrance peut être un catalyseur pour, en la surmontant,
oui.
Disons, gagner en richesse intérieure. Mais oui, effectivement, la valeur inestimable de la vie, et un sage bouddhique disait, il faut se sentir émerveillé ou d'avoir une grande fortune de pouvoir inspirer à nouveau quand on a expiré. C'est une merveille de chaque instant de l'existence. Le temps prend une valeur toute différente lorsqu'on est au sein de l'émerveillement.
On accueille tout de suite, si vous le voulez bien, Jean. Bonjour Jean, soyez le bienvenu sur RTL.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous. Je vous présente Pascal Schenk et Mathieu Ricard. Quel beau sujet que celui-ci. On l'a proposé sur nos réseaux sociaux comme chaque jour. Et en fait, on se rend compte que tout le monde aime parler de ce sujet. Tout le monde aime échanger parce que ça aussi, c'est vertueux et ça met de la lumière et ça met des couleurs. Vous sillonnez la France, vous Jean, et vous aviez envie de nous parler de ce que vous voyez, j'imagine.
Ben disons que je suis commercial, donc je fais presque 100 000 km par an,
ouais,
en France.
Ouais.
Alors je suis belge, j'ai la chance de travailler dans votre beau pays, et comme je suis souvent en voiture et que j'ai des moments de longs trajets, j'ouvre les yeux et je vois que des merveilles tous les jours. Mmh. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, j'arrive à trouver un spectacle permanent tous les jours.
Qu'est-ce que vous voyez qui vous touche autant ?
Ça me rapporte certainement à l'enfance où, quand je me baladais dans la nature, les nuages, le soleil, les couleurs, les levées de soleil, les couchers de soleil. Il pleut, le soleil revient. Tout à l'heure, je suis passé sur Reims.
Ouais.
Il n'est pas terrible aujourd'hui, mais malgré tout, à un certain moment, il y a eu une petite éclaircie. Alors, ça paraît simple, mais franchement, ça fait un grand bien, vraiment.
Vous avez toujours été comme ça ?
Je pense que je suis un mélancolique, certainement, et qui aime regarder. J'ai toujours été attiré par les arts. Déjà, la contemplation d'un tableau, encore aujourd'hui, j'adore ça. Et puis, je pense aussi que vers l'âge de 14-15 ans, j'avais pas des super beaux résultats scolaires. Et mon père m'a interdit de télévision pendant un an, pensant que ça allait me faire changer, me faire mettre à travailler pour l'école. Ceci dit, ça n'a rien changé, j'ai pas mieux travaillé pour l'école. Mais par contre, je me suis plongé dans plein de livres et surtout, je me suis baladé, j'ai ouvert les yeux en fait. J'étais pas focalisé sur un écran en permanence comme les enfants. Bon,
ouais.
Sans exagérer, mais aujourd'hui, c'est les tablettes par exemple et les smartphones.
Ça vous inquiète justement, le monde d'aujourd'hui ?
Honnêtement, oui. Je fais souvent évidemment des repas à l'extérieur et je vois souvent des parents avec un enfant. Et l'enfant, il a un restaurant, on va dire 3-4 ans. Qu'est-ce qu'il emmène ? Le smartphone des parents et les parents mangent, ne communiquent pas. Je vois ça d'un très bon œil, évidemment, mais bon, voilà.
On va se retrouver dans un instant, Jean, si vous le voulez bien, sur cette antenne. On va poursuivre nos conversations avec Mathieu Ricard et avec Pascal Schenk. À tout de suite.
RTL.
On est fait pour s'entendre. 15h, 16h, on est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Vous êtes sur RTL, nous sommes en compagnie de Mathieu Ricard. Procurez-vous le livre de Mathieu Ricard, Émerveillement, aux éditions de La Martinière. Des photos magnifiques, le monde sauvage. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu ?
Non, je suis tout à fait pour.
Oui, non, mais c'est vrai. Écoutez, oui, c'est... moi, il est magnifique ce livre.
Ah, bah, je suis bien d'accord.
Des photos, la part sauvage du monde, et puis en même temps des textes très puissants sur ce très beau sujet que l'on aborde aussi donc avec Pascal Schenk, qui est notre invité. Jean est en ligne avec nous, mais des messages qui nous sont arrivés. Sylvie, un lever ou un coucher de soleil, un arbre tordu qui se bat pour continuer à vivre et tant d'autres choses. Il faut savoir saisir ces instants magiques qui illuminent une matinée ou une journée. Claudine, je m'émerveille d'un arc-en-ciel en regardant les arbres. Quand je regarde la nature qui est tellement belle, ce n'est que du bonheur. Émilie, une petite fleur toute neuve, les montagnes qui m'entourent, un coucher ou un lever de soleil, tous les jours je trouve des petits moments de bonheur. Et des messages comme ça, on en a plein. Et tous nos auditeurs ont envie de partager cette magie finalement du vivant. Vous Jean, vous comprenez hein, parfaitement ce que nous écrivent Sylvie, Claudine, Émilie et tous les autres, puisque vous nous parlez justement de votre émerveillement pour la nature qui vous entoure. Et vous nous expliquez que c'était une privation qui un jour vous avez fait, une punition hein, qui vous avait fait ouvrir un vrai territoire en vous. Est-ce que ça doit toujours se passer comme ça, Mathieu Ricard ?
Bah, disons que c'est une chance indirecte d'avoir été ainsi propulsé dans la nature sauvage, puisque on a montré notamment que les enfants qui ont la possibilité ouais. d'être davantage exposés à la nature, après ils sont beaucoup plus créatifs pour trouver des solutions à des problèmes, beaucoup plus imaginatifs, parce qu'ils voient comment la nature, cette interdépendance extraordinaire, et puis ces moments devant un ruisseau, devant un essaim d'abeilles. Et donc, il y a une autre étude très troublante qui montre que les enfants qui ont exclusivement grandi en milieu urbain ont une chance accrue de schizophrénie et de dépression. Donc, c'est clair que la privation de nature a un des effets délétères sur la santé physique et mentale.
Donc, une bonne punition, en fait, Jean, au final.
Oui, non, mais j'ai remercié mon père plus tard.
Ouais. Ah oui, c'est vrai ? Vous le lui avez dit ?
Oui, je lui ai dit, tu sais, t'as essayé de me faire changer d'avis, et puis finalement, bon...
Pascal Schenk, qu'est-ce que ça vous évoque justement le témoignage de
Pour pouvoir s'émerveiller, en fait, il faut faire du vide en soi, il faut être disponible quoi, pour pouvoir à la fois s'émerveiller de ce qu'on voit et de ce que l'on ressent. Parce que ce qu'il y a de fort dans l'émerveillement, c'est comme la joie, c'est de se dire « Ah, c'est beau et je le sens ». Ou bien « Je suis joyeuse et je sens que je suis joyeuse ». C'est cette alliance qui fait que ça pétille vraiment. Et voilà, si on est gavé, si on est plein, si on est comblé tout le temps, si on ne pense qu'à consommer, à rajouter des choses, on ne va pas être en contact avec cette capacité de vide intérieur pour apprécier le beau.
Ça veut dire aussi qu'il faut, à un moment donné, s'extraire. Pardonnez-moi, mais j'ai quand même le sentiment, Mathieu Ricard, quand vous nous racontez vos voyages, quand on connaît vos voyages intérieurs, quand on connaît votre travail, il est peut-être... plus aisé d'accéder à cet état pour une personne comme vous et votre ouverture au monde que pour ceux qui nous écoutent et qui courent le matin dans le métro. Enfin, là, vous éprouvez la vie parisienne, mais ce n'est pas votre vie. Quoi.
Non, c'est juste. En même temps, moi, ça m'arrive même en plein Paris, m'asseoir sur un banc, je vois les feuilles mortes qui sont tombées, puis je regarde passer les personnes, je formule des vœux pour que ces personnes s'épanouissent dans l'existence, qu'elles soient... libre des souffrances, je vois un regard bienveillant que je croise. Et donc ça, c'est plus l'émerveillement face à la nature humaine.
Oui.
Trouver le potentiel de bonté en chacun, hein, la banalité du bien. Donc ça, cet émerveillement-là, bien sûr, il peut survenir si on lui donne sa place au sein de la société, de la population et d'une vie assez active. Mais c'est vrai qu'il faut... Alors, l'espace qu'on va donner à ce moment-là, c'est plus un espace de regarder vers l'intérieur, d'avoir un espace intérieur aussi vaste que le ciel que l'on voit à l'extérieur, qui donne la place aux autres aussi. Pas seulement moi, du matin au soir. C'est le contraire de l'émerveillement.
Bien sûr. Mais quand je parle de s'extraire aussi, je trouve que parfois, il faut se mettre dans une posture une position pour être en relation au monde comme ça.
C'est un entraînement de l'esprit. On l'avait vu
en fait, ce que je veux dire par là, pardonnez-moi, c'est un engagement. On peut s'engager à s'émerveiller.
Oui, et en même temps, il faut être surpris. Parce que le vrai émerveillement, on est surpris. C'est l'inattendu, c'est la chose qui arrive quand on ne l'attendait pas. Et par contre, il y a un entraînement de l'esprit.
C'est dans ce sens-là que
je dis. Et c'est pour ça que moi, je m'intéresse à la poésie haïku, parce que c'est la tentative de capter sans cesse ces moments. Voilà.
Alors, en même temps, ces moments magiques, c'est vrai qu'ils vous prennent par surprise. Mais en même temps, on peut se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand je marchais sous les étoiles dans la neige? Eh bien, une suspension des conflits intérieurs, une suspension, ce sentiment exacerbé de l'importance de soi, une sorte voilà, de transparence entre l'extérieur et l'intérieur. Donc tout ça, on peut reconnaître ces facteurs. Et là, l'entraînement de l'esprit peut faire qu'on peut se familiariser avec ce mode d'être, cette liberté intérieure. Et là, c'est possible donc, d'acquérir un terrain où on s'émerveille beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent.
Dans un instant, nous allons parler avec Frédéric sur cette antenne. Il est en ligne. Vous aurez la parole tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
L'émerveillement, quel joli thème. La poésie aussi à travers vos ouvrages. Pascal Schenk, un haïku chaque jour aux éditions
du Seuil.
Du Seuil, merci beaucoup. Et l'effet haïku, lire et écrire des poèmes courts qui agrandit notre vie. On parlait de cette capacité justement à recevoir les choses comme d'un territoire que l'on doit laisser vacant, je dirais, pour pouvoir accueillir cet émerveillement dont on parle. On va accueillir Frédéric sur cette antenne si vous le voulez bien. Bonjour Frédéric.
Bonjour Flavie.
Oh, bonjour Frédéric. Comment allez-vous?
Mais je vais très bien et vous, comment allez-vous?
Mais moi, alors vous savez, je vais très bien parce que ces sujets-là, je trouve, mettent tellement de lumière et de couleur que forcément, je trouve ça formidable de partager autour d'un sujet à la fois si simple, à la portée de tous et qui peut apparaître pour certains si difficile à accéder. Frédéric, plus vous vieillissez, plus vous vous émerveillez.
Oui, c'est exact. Oh, c'est ce que j'ai dit ce que j'ai dit à votre standardiste tout à l'heure.
Ouais.
Et je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles c'est peut-être quelque chose. Je vous écoutais tout à l'heure parler et j'ai relevé un mot, c'est l'inattendu.
Ouais.
C'est l'inattendu. En fin de compte, plus je vieillis, plus je me sens émerveillé. Parce que le mot émerveillé, donc c'est l'émerveillement, on va dire, pour moi, qui est lié de par ce que je fais, de par ce que je réalise. Comme j'ai expliqué en fin de compte, c'est à la fois, moi, il y a un truc qui est lié, et sans, je ne peux pas être l'un sans l'autre. L'un sans l'autre, c'est la musique et le bricolage. Les deux ne peuvent pas aller différemment si je les ai pas. Et c'est ça qui fait que plus je vieillis et plus je me sens émerveillé de par ce que je fais, que ça soit le bricolage ou la musique. Voilà.
Donc vous êtes émerveillé par l'accomplissement en fait.
Voilà, c'est la réalisation en tout et pour tout quoi.
Il y a quelque chose moi aussi qui m'a touchée, c'est que vous êtes fier de vous émerveiller tout seul.
Ben oui, parce que. Être émerveillé, est-ce qu'on se pose pas la question, est-ce que c'est pas personnel? Est-ce qu'on peut partager l'émerveillement?
Alors justement, je vais me tourner vers Mathieu Ricard.
Alors l'émerveillement se rapproche beaucoup de quelque chose qui est assez connu en psychologie, qui est le flow de Chinchenk Milai. Et le flow, précisément, l'on bricole, qu'on écoute de la musique, on oublie un peu le passage du temps, on oublie le sentiment du moi également. Et donc, on peut être seul parce qu'en fait, en même temps, il y a une forme d'union avec la musique, avec le bricolage, même avec les autres, mais pas de manière conceptuelle. Et donc, effectivement, il n'y a plus de solitude puisqu'il n'y a plus de moi qui serait seul et qui s'en plaindrait et qui en souffrirait.
Pascal Schenk.
Et la musique est un bon exemple. Je pensais tout à l'heure, la journée était très grise et j'ai mis un disque d'Olivier Messiaen. Et tout à coup, j'ai eu l'impression que, vraiment, d'ailleurs, j'ai écrit un petit poème là-dessus, une levée de paillettes arrivait dans la journée, quoi. C'était incroyable. Pourquoi? Parce que dans cette musique, j'entendais quelque chose vraiment du talent humain. Enfin, c'est merveilleux.
J'ai un ami belge qui a fondé le Club des Optimistes de Belgique. Il en avait un peu assez que sa fille se plaigne qu'il pleuve toujours à Bruxelles. Il a fait 50 parapluies sur lesquels il y avait marqué un si beau jour de pluie.
Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, donc c'est une disposition. Et c'est, quand je parlais d'un engagement tout à l'heure, c'est effectivement poser des actes. C'est essayer, en tout cas, à un moment donné, soit de recevoir le monde, soit d'essayer aussi de le changer par un regard, quoi.
L'avantage de l'âge, comme nous disait notre témoin, c'est qu'on devient de plus en plus conscient de ce qui nous émerveille.
Ouais.
Avec une vulnérabilité qui arrive, on est peut-être un peu moins dans la mode, dans ce qui vient de l'extérieur.
Et aussi, le temps acquiert une valeur de plus en plus précieuse parce qu'il est de plus en plus limité. Quand on est jeune, on se dit, bof, si tout va bien, j'ai 50 ans, 60 ans devant moi. Mais comme disait Sénèque, ce n'est pas qu'on ait beaucoup de temps, c'est qu'on en gaspille beaucoup. Donc, arrivé à un certain âge, on sait que quoi qu'il arrive, le temps est limité. Donc, autant que la valeur soit de ce temps coule comme un flot d'or fondu, que chaque moment soit éminemment précieux. Et moi, quand je suis tout seul dans mon ermitage, le temps a une valeur incroyable. Je ne m'ennuie pas du tout. Je n'ai pas un sentiment d'isolement, de solitude, d'être lâché par tout le monde. Au contraire, un sentiment d'unité avec tous ceux qui me sont chers, avec l'ensemble des phénomènes, l'ensemble des animaux. Et donc, en fait, c'est la valeur du temps qui change aussi avec l'âge. Et on devrait pouvoir donner cette valeur au temps beaucoup plus tôt dans l'existence. Comme ça, on perdrait moins son temps.
Et oui, mais alors justement, on a été peut-être détourné de ça, mais on a l'impression aussi dans cette plénitude, je dirais, de retrouver un peu une part de son enfance. Parce que j'ai l'impression que quand on est enfant, on est disposé à s'émerveiller. Mais on va en parler dans un instant. Frédéric, vous étiez un enfant justement rêveur, un enfant qui pouvait être épaté, qui pouvait justement être sensible comme ça au monde.
Étant jeune, est-ce
que vous aviez des bases? Non. Ah oui? Ah oui, donc vraiment vous l'avez cultivé, vous l'avez découvert, quoi.
Voilà, je l'ai découvert avec le temps.
Eh bien, écoutez, je pense que vous êtes bien parti pour poursuivre alors sur ce joli chemin, hein, Frédéric. Je vous remercie en tout cas.
Mais c'est moi qui vous remercie, Flavie, d'avoir reçu mon appel.
Et je vous embrasse.
Merci, vous aussi.
À bientôt.
Au revoir, Flavie. Frédéric.
Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 16h sur RTL.
On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand.
Anne, qui nous écoute, élève l'évermeillement à l'art de vivre. C'est un art, c'est du bonheur de chaque instant, c'est une émotion positive, génératrice de plaisir finalement. C'est voir la vie avec ses yeux d'enfant. Annie, quand on a gardé son âme d'enfant, on reste évermeillé par ceux qui nous entourent. Alors est-ce que justement on renoue avec l'enfance quand on est disposé comme ça au monde, Mathieu Ricard ?
Pas avec l'enfance intégralement, mais on renoue avec la fraîcheur du moment présent de l'enfant qui découvre tout. Et qui ne surimpose pas tous ses a priori, tous ses habitudes, tous ses automatismes mentaux. Donc chaque chose, on donne souvent l'exemple dans le bouddhisme tibétain d'un enfant qui découvre un temple extrêmement décoré de superbes fresques. Il regarde ça avec étonnement, il ne sait pas quelles sont les histoires qui sont racontées, les symboles. Mais tout est, il est complètement perméable, ouvert, sans a priori. Et donc, de ce point de vue-là, l'émerveillement, effectivement, est au-delà de tous ces concepts, de tous ces espoirs et ces craintes, des ruminations qui sont souvent la cause annonciatrice de la dépression. On ne fragmente pas le monde, tout s'offre de manière égale. Les enfants ne font pas de distinction entre les races, les religions, toutes ces choses qui divisent les adultes. Et donc, c'est vrai, cette fraîcheur de la perception crue s'approche de ce que représente l'émerveillement face à la nature, face à l'être humain.
Oui, parce que tout est neuf pour un enfant. Et cette hypersensibilité qu'il a quand il joue, qui fait qu'il est très concentré, qu'il est dans son monde, ou quand il court dans un pré, un enfant de 3 ans qui court dans un pré, vous sentez qu'il est, tout son corps est pris dans cette action. Il est vraiment dans la perception à 100% de ça. Après, on le coupe de ça, malheureusement. L'éducation nous entraîne vers l'extérieur, vers ce qu'il faut faire, vers des contraintes de temps. Et on peut perdre ça jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce que la maturité revienne nous chercher pour
c'est
nous
dingue,
dire...
C'est dingue, ça. C'est un cadeau, en fait, la maturité. Ouais. Ils me regardent tous les deux comme ça. Ouais.
Mais il faut dire qu'on n'est pas encore
en ce 24 décembre. Non, mais parce que je me dis, en fait, c'est extraordinaire parce que, oui, il y a un âge comme ça où la maturité est un cadeau. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de libération. On gagne en...
Disons qu'on gagne certaines choses, on en a perdu d'autres.
Et on en retrouve. Non, mais je...
Bon, c'est sûr que
je trouve que c'est une jolie façon de voir la vie, d'ailleurs, moi.
On essaie humblement de suivre un chemin spirituel. C'est précisément ce genre de qualité qu'on essaie de redécouvrir à tout âge.
Oui.
La simplicité de l'esprit, la fraîcheur du moment présent, le fait de ne pas se laisser envahir par les automatismes mentaux qui fait ses enchaînements, ses proliférations des pensées. Laisser les pensées passer comme un oiseau qui traverse le ciel sans laisser de traces. Tout ça, ça fait partie de la vie contemplative. Donc, une vie contemplative bien vécue, en fait, c'est une sorte d'émerveillement intérieur. On n'emploie pas forcément ce vocable-là, mais ça revient un petit peu à ça. De demeurer dans la simplicité du moment présent, c'est une forme d'émerveillement qui dure sans qu'il soit forcé, contraint, artificiel.
Pascal Chêne, quand on rentre en évermaillement, ça peut durer longtemps en fait. On est obligé, selon vous, d'être dans un état quand même de conscience et d'essayer de l'entretenir.
Moi, il me semble
quand on l'a, est-ce que c'est gagné ?
Il me semble que, franchement, les moments d'émerveillement sont fugitifs. Franchement, je ne pense pas. Ou alors, quelques saints, peut-être, restent...
Non, notre disposition à nous émerveiller, c'est ça que je
elle grandit, elle s'éduque, elle... quand vous en faites quelque chose, c'est-à-dire quand vous transformez justement ces émerveillements que vous avez vécu en texte, en poème, en musique, les artistes font ça. Là, du coup, ça fait caisse de résonance, ça s'intensifie encore plus si vous faites une méditation créatrice.
Je me souviens d'être promené dans la nature, dans les Alpes, avec Alexandre Jolien, mes compères, et Christophe André.
Avec qui vous avez déjà signé différents ouvrages.
Et on se disait, on ne se lasse pas, on ne se fatigue pas d'être dans la nature. Et ça, c'est assez étonnant, parce qu'on se lasse de beaucoup de choses. Hein. Les glaces au caramel, la plus belle musique du monde, 24 heures sur 24.
C'est vrai.
Et tandis que la nature, on ne dit pas, j'en ai ras-le-bol de voir tous ces arbres, ces lacs, ces montagnes. S'il vous plaît, arrêtez vivement des gratte-ciels.
Mais elle est hyper mouvante aussi, la nature. Elle n'est jamais
c'est
la même.
Il y a toujours le vent change, un oiseau passe, la lumière change à chaque instant. Un photographe le voit ça plus qu'encore et plus attentif à cela.
Ouais.
Des reflets quelque part. Tout suscite ce sentiment d'harmonie et d'émerveillement.
Alors, on va se retrouver dans un instant sur cette antenne et puis on va voir comment aider ceux qui nous écoutent et qui se sentent déconnectés de ça. On va peut-être les aider à se reconnecter, mais pour une fois, pour la bonne cause, quoi. On va se retrouver tout de suite sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL.
L'évermaillement, ça n'est pas que pour les enfants, nous écrit Aurélie. Les généreuses manifestations de l'âme humaine m'évermeillent. La main tendue existe et ça, c'est une joie. Julia, l'évermaillement n'appartient pas qu'aux enfants. Nous nous évermeillons tous les jours, malheureusement pour beaucoup, sans s'en rendre compte, car trop la tête dans le guidon. Et puis Catherine, évermeillée, ben non. Je crois que ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Je ne me rappelle même pas l'avoir été. Alors là, Catherine, on a envie de la prendre dans nos bras. On a envie de l'inviter à quelque chose de nouveau, selon elle. Et on a envie de l'ouvrir à cette magie. Comment on peut faire, Mathieu Ricard, pour quelqu'un comme Catherine ?
C'est difficile sans connaître Catherine. Bien
sûr.
Et l'avoir côtoyée.
Oui, mais est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est à la portée de tous, non, ça ?
On peut penser qu'il y a des formes de résistance, de barrière. Et peut-être... Je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais j'imaginerais qu'un remède, ça serait de prendre un après-midi, aller s'asseoir quelque part au bord d'un étang, ne serait-ce qu'au bois de Boulogne, et puis sans aucun plan préconçu, laisser les choses apparaître, le ciel changer, regarder, ne rien attendre. D'abord, peut-être quelque chose va surgir dans cette tranquillité. C'est difficile à dire, donner des conseils sans...
Non, mais en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut laisser monter les choses.
Parce que je me rappelle des jeunes que j'avais rencontrés au Canada qui me disaient, voilà, on a suivi plein de conseillers, on a rempli des questionnaires, on ne sait pas ce qu'on va faire. Je dis, mais vous ne pouvez pas vous asseoir, le Canada, c'est si magnifique, au bord d'un lac, dans une forêt, et laisser monter du fond de vous-même. Qu'est-ce que vous voudriez vraiment, vraiment faire dans l'existence ?
Oui, mais ce que vous nous dites, en laissant monter, c'est qu'on a ça en soi, Pascal Chêne.
Il faut se rendre disponible, il faut ouvrir la fenêtre à l'intérieur de soi, il faut s'asseoir sur un banc, il faut en effet regarder, sans rien attendre, sans s'imposer, se lâcher un peu, regarder. Et puis, alors je trouve qu'il y a une autre étape qui est vraiment bien, c'est l'écriture. C'est-à-dire quand on commence à voir quelque chose qui vous émeut, en garder une trace, l'écrire, le partager. Et puis, petit à petit, on en fait un poème, par exemple. Lire des poèmes, c'est aussi une source d'émerveillement continue.
Mais si ce n'est pas pour, comme cette personne, peut-être qu'elle n'a pas une affinité aussi grande que la nature, mais elle peut s'imaginer ou voir un tout jeune enfant qui la regarde dans les yeux, et ce regard, il peut faire naître l'émerveillement. Donc essayer de s'exposer à toutes sortes de possibilités d'émerveillement.
Mais en fait, je me dis, il ne faut pas avoir peur des émotions. Pour s'émerveiller.
Sans doute, il faut être.
Parce que c'est une émotion qui est puissante. Il faut se sentir vivant parce qu'on peut. On est dans l'émotion, on peut être ému par un regard que l'on croise, on peut être. Tout à l'heure, d'ailleurs, on entend des gens qui nous parlaient de mélancolie. Donc, il faut être disposé à ressentir les choses.
Bah, oui. Alors, les opposés de l'émerveillement, c'est une sorte de lourdeur, fragmentation, d'être excessivement centré sur soi-même, de rumination. Évidemment, on est constamment pris dans des ruminations d'espoir et de crainte. On n'est plus du tout disponible pour regarder un tout petit peu le ciel et les oiseaux qui passent et les nuages et les mouvements des nuages. Mmh. Un tout petit peu s'oublier aussi soi-même.
Il faut nous mettre des bancs publics.
Oui, oui,
nous,
je trouve que le banc public, absolument, on nous les enlève et c'est pas juste parce que...
Et pas simplement pour se bécoter. Hein.
Non, 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 pour s'arrêter, pour contempler, pour prendre du recul sur sa vie, pour se remettre dans son corps. Vous savez, vous asseyez bien droit comme ça, vous mettez les plantes des pieds par terre, vous respirez. Ouais. Le corps est un formidable allié aussi pour s'émerveiller, paradoxalement. Parce que quand on revient au corps, on a moins de pensées parasites.
Je vous remercie tous les deux, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation ce 24 décembre. Je vous souhaite un très beau réveillon. Merci beaucoup pour
cette joyeux
magie.
Et émerveillé.
Oui, et c'était une joie de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce beau sujet qui a suscité des réactions sur nos réseaux sociaux. Donc, émerveillement, j'ai beaucoup de mal, certains auditeurs ont dû le remarquer, à le dire, mais c'est mon émerveillement à moi, vous voyez, voilà. Et je précise que l'intégralité de ces recettes iront à l'association humanitaire que vous avez fondée, Karuna Chechen, qui accompagne depuis 20 ans les plus démunis en Inde, Népal, au Tibet et bientôt en Europe. Merci beaucoup Mathieu Ricard. Quant à vous Pascal Schenk, donc l'effet haïku aux éditions Le Duc et un haïku chaque jour aux éditions du Seuil. Je vous embrasse tous les deux et je vous souhaite de très belles fêtes, demain. Demain ça va être pas mal aussi à 15h. Il était une fois sur RTL, trois petits mots magiques qui nous ramèneront une fois de plus à notre enfance avec cette question: pourquoi est-il important de lire des histoires à nos enfants? Je suis sûre Mathieu Ricard que ça vous inspire.
Il y a des études qui montrent incroyablement à quel point c'était essentiel et important. Moi, je me rappelle quand ma grand-mère me racontait des histoires d'explorateurs du Grand Nord canadien.
Exactement.
C'est ça qui m'a donné envie d'aller dans le Yukon et en Patagonie.
De cela, on en parlera demain dès 15h sur RTL en compagnie de Geneviève Pat, Maureen Dor et Gilles-Marie Vallée. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Je vous embrasse, prenez soin de vous, joyeux réveillon. À l'écoute d'RTL aussi, si vous le voulez. Je vous embrasse, à demain.
RTL, on est fait pour s'entendre.